on nous a désigné des mentors. Et là, c'est là que le vrai challenge, il commence, tu vois. Mmh. Parce que eux, ils sont dans le... c'est des entrepreneurs. Donc, ils vont décortiquer. En fait, ils vont parler chiffres tout de suite. Mmh. Ils vont te parler chiffres, ils vont te parler réalisations, milestones et tout. Et là, t'es plus en train de faker.
Et vous étiez prêt ? Pas prêt à ça ?
Ah, c'était dur.
Ça a été
ouais.
dur.
Ouais, on c'était une petite claque.
De... Et pourtant, c'est la réalité. Quand cet événement vous permet de rencontrer ces mentors et ces entrepreneurs qui challenge, parce qu'ils sont déjà passés par là, donc ils apprennent.
Ouais. En plus, ils sont de toute taille, tu vois. C'est-à-dire que ça peut être des gens qui sont plus ou moins à ton niveau, mais ils sont un peu plus avancés. Et t'as aussi du gros, tu vois. T'as de l'industriel, t'as des gens qui, tous les jours, ils deal avec des gros chiffres. Et donc un retour comme ça, c'est eux aussi, je pense, c'est aussi une expérience pour eux parce qu'ils se mettent à échelle. Et nous, de prendre...
nous challenger pour nous essayer de se mettre à leur échelle.
Ouais, c'est ça. S'imaginer ce qu'ils pourraient faire.
Comment vous dites, ok, il y a encore une grande marche à passer.
Ah, pas bien.
Pas bien.
Déjà, on manque de sommeil déjà.
Ouais, parce que ça a été trois jours très intense. Où en fait, chaque jour qu'on passait, on essayait de mettre à jour notre projet le soir.
Bonjour à tous, c'est Julien Hatton et bienvenue dans Comment t'as fait, le podcast qui vous fait gagner des années d'expérience entrepreneuriale. Si vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir et que vous cherchez à comprendre comment celles et ceux qui entreprennent ont fait, ce podcast est pour vous. C'est parti.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Comment t'as fait, les rencontres d'entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir pour cet épisode spécial d'accueillir non pas un mais deux entrepreneurs, Lucas Campbell et Jonas Aferia, cofondateur de NFT, solution de lutte contre la contrefaçon des produits à haute valeur ajoutée.
Exactement.
Bon, vous allez nous expliquer plus en détail ce que c'est. Dans cet épisode, on va parler ensemble de plusieurs sujets. Les NFT, évidemment, vous allez nous expliquer ce que c'est, comment vous êtes tombé dedans, ce qu'on peut faire avec. Ce n'est pas toujours très clair pour le grand public. On évoquera aussi la blockchain. On évoquera ce qui vous a mené à l'entrepreneuriat, comment vous êtes venu le déclic. On parlera d'entrepreneuriat entre potes, de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne moins bien ou ce qui est plus compliqué, de votre participation l'année dernière au concours Plug and Start, organisé par la Technopole de l'Aube en Champagne, et d'où vous en êtes aujourd'hui, de votre ambition et de comment vous comptez y arriver dans les prochains mois ou les prochaines années. Un beau programme et un retour d'expérience qui, je l'espère, va aider plus d'une auditrice et d'un auditeur qui nous écoute.
C'est parti.
Alors, avant que vous nous partagiez votre expérience, je tiens à préciser que cette rencontre a été permise par la Technopole de l'Aube en Champagne, qui nous a mis en relation et qui organise le concours donc Plug and Start et soutient cet épisode. Vous avez un projet, vous souhaitez accélérer le développement de votre startup et gagner 3 à 6 mois sur l'avancée de votre entreprise. Il est encore temps de candidater pour l'édition 2024 de Plug and Start pour faire partie de la vingtaine d'entrepreneurs qui investiront les locaux de la Technopole de l'Aube en Champagne. Cette année, c'est la 29e édition et c'est les 12, 13 et 14 juin 2024. Pendant 3 jours, vous pourrez tester l'offre d'accompagnement grâce à 45 dirigeants d'entreprises mobilisés afin de vous guider et vous conseiller. En parallèle, plus de 50 experts bénévoles représentant les multiples facettes de l'entrepreneuriat, du juridique au marketing en passant par le financier ou la communication, vous aideront à répondre à vos problématiques grâce à des solutions concrètes et adaptées à vos ressources. Plug and Start, c'est aussi des ateliers techniques, une grande conférence sur l'entrepreneuriat et l'innovation avec un invité de renom. L'année dernière, c'était au tour d'Éric Larchevêque, le cofondateur de Ledger et célèbre investisseur que vous connaissez et que j'ai accueilli sur ce podcast. Participer à Plug and Start, c'est l'assurance pour vous de repartir avec une roadmap structurée, nouvelle vision de votre projet et de précieux contacts. De quoi donner un coup d'accélérateur décisif à vos startups. À vous de jouer. On y va ? Première partie, comment vous avez fait pour passer de copain à entrepreneur ? Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on prenne un temps pour arriver à comprendre voilà, qui vous êtes, Lucas et Jonas. Comment vous êtes rencontrés ? D'où vous venez ? Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez décidé de lancer ensemble une boîte ? Ok ?
Je peux commencer si tu veux. Ouais. Déjà, Jonas et moi, on est tous les deux de Paris. On est né et on a grandi à Paris. On n'a jamais vraiment bougé. On a fait nos études, on a travaillé toute notre vie à Paris. On s'est rencontrés il y a plus de 10 ans maintenant, donc au lycée. C'était une ambiance vraiment particulière parce qu'on a fait des études dans l'art et tout. Donc, on est toujours été très, très créatifs et on a toujours essayé un peu de penser un peu différemment des gens qui nous entouraient. Et... on avait toujours un peu cette promesse et une discussion qui revenait tout le temps de « faut qu'on fasse quelque chose ». peu importe comment, il faut qu'on tente quelque chose à un moment, parce que voilà, ça nous passionnait, ça nous intéressait, on regardait les autres et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose.
Donc c'est pas l'idée que vous êtes arrivé, c'était le fait de faire quelque chose ensemble.
L'idée elle est venue bien plus tard, parce que je pense que pour tout entrepreneur, t'en as en permanence des idées. Et c'est juste à quel moment est-ce que tu estimes et tu juges qu'une idée est meilleure qu'une autre.
C'est ça, c'est trouver les bonnes personnes, le bon moment. Qui fait le... C'est ce qui fait la beauté du
bon
projet.
Pour y aller.
Ouais, le bon timing. Donc, on a fait plein de tentatives, tu sais, qui étaient vraiment toutes petites, des trucs où on s'est complètement...
On a essayé de monter une agence de publicité à un moment. Ouais. Donc on était dans le monde de l'art, on avait fait des études reliées à ça. On s'était dit, pourquoi pas monter une agence de pub ? Mm-hmm. C'était compliqué.
Ouais.
On a essayé de monter un studio après de 3D. Vu que c'était un peu plus ma spécialité, ça a bien fonctionné, mais... On avait toujours ce projet en commun qui nous faisait rêver. Et on s'est retrouvés sur un banc, un moment, à discuter de ce projet. On s'est dit, pourquoi pas se lancer.
D'accord.
On s'est mis les deux, on a mis nos projets personnels de côté. Et on s'est dit, pourquoi pas. On a senti que c'était le bon moment. On a senti que c'était ce moment et qu'il fallait y aller.
Vous avez lancé, comme tous ces lycéens dont j'ai fait partie, à un moment donné, une marque de t-shirt ou tout ça.
Moi, j'ai tenté au collège. J'ai tenté au collège.
D'accord.
Ouais, au collège. Un truc qui s'appelait Petit Homme.
On a tous eu l'idée de se dire, il suffit de faire un beau...
Mais parce que c'est le plus accessible, en fait, quelque part. C'est le truc qui te paraît le plus facile, réalisable, où tu maîtrises un peu les coûts et tout. Si tu as une toute petite notion un peu d'argent et tout, tu te dis, ça peut être si compliqué que ça.
Ok, ouais. Donc une rencontre au lycée pour vous deux. Mais avant, vous ne connaissiez pas avant.
Pas du tout.
Vous êtes retrouvés dans la même classe ou même pas
dans la même école.
Ouais, même école, même classe. Je crois qu'on a fait les 3 ans ensemble. Ouais.
Et qu'est-ce qui a fait que ça a matché dès le départ?
Je pense que c'est une question de personnalité, de tempérament. Et je pense qu'on se rejoignait déjà sur cette volonté de une certaine ambition, tu vois, un truc qu'on voulait faire qui nous dépasse un peu. Et c'est vrai que là-dessus, on était peut-être un peu en marge par rapport aux autres, ou en tout cas, quand on pouvait en discuter, lui et moi, les autres camarades, ils ne suivaient pas forcément la discussion. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Ils ont 16 ans, tu vois.
Okay. On était trop ambitieux pour notre âge.
Ouais, pour l'âge. Ouais. Ok. Alors, ça m'intéresse parce que justement, derrière chaque entrepreneur, il y a un ambitieux ou une ambitieuse. Ça vous vient d'où? Alors, on va peut-être commencer avec toi, Lucas, mais ça vient d'où, ce côté ambition?
Je ne sais pas si je peux parler de ce côté ambitieux, mais je peux peut-être parler plus de ce côté entrepreneur. Moi, j'ai la chance, déjà par mon nom de famille, mon père, il ne vient pas de France, c'est un Écossais. Donc, il est venu à Paris pour travailler. Il a monté tout de suite quelque chose. C'était une boîte de déménagement à la base. Ouais, en France.
D'accord.
En France.
Mais c'est un moyen. Enfin, moi qui ai déménagé à Londres, c'est un moyen aussi, quand tu arrives dans un pays, pour t'intégrer dans la vie ou dans les marchés locaux, de créer une boîte, en fait, parce que souvent, on t'ouvre pas les portes d'entreprise, quoi.
C'est ça, ouais. Et donc, moi, j'ai toujours eu à peu près ce truc en filigrane à côté de moi de quelqu'un qui avait essayé en permanence de monter quelque chose, et c'était pas une question, quoi. Il se disait, non, mais moi, je veux faire mon truc, je veux créer quelque chose.
Et ça se passait bien pour son entreprise ou pas?
Il y a eu des hauts et des bas, comme pour toute entreprise.
Parce que parfois, ça peut faire l'inverse, tu vois, et dire, bon, en fait, ça me motive pas trop, parce que je vois ce que c'est.
Ouais.
Les heures, les risques, la pression, la charge mentale, enfin, tout ce qu'il peut y avoir aussi derrière l'entrepreneuriat.
Après, je pense aussi, c'est le contexte social et familial qui fait que tu peux te permettre certaines choses. Je pense qu'on pourra en parler plus tard. Lui, pour parler de mon père, il avait la chance d'avoir ma mère qui était quand même quelqu'un qui était dans un cadre beaucoup plus atypique, tu sais, salariat et tout, donc qui apportait une sécurité. Et donc, il lui permettait aussi de pouvoir être un peu plus foufou et de tenter.
Ouais, de lui se permettre de tenter, partir à l'aventure entrepreneuriale. Ok, super. Et toi, Jonas?
Moi, juste l'envie de pouvoir faire quelque chose qui me correspond et qui me ressemble.
D'accord.
Dans l'idée, c'était... J'essayais plein de fois de monter des entreprises. J'ai eu la chance aussi, grâce à mes études, de faire énormément de stages et d'alternance.
Okay.
Ce qui m'a fait voir ce que c'était le monde du travail et ce qui m'a donné envie aussi d'essayer.
Ouais.
Moi, j'ai fait énormément d'agences de publicité.
D'accord.
J'ai vu comment ça fonctionnait, comment ça se passait, la liberté qu'on pouvait avoir sur certains choix et certaines solutions qu'on pouvait apporter aussi. Et de fil en aiguille, je me suis dit, ça pouvait être une bonne idée de monter et d'essayer de monter quelque chose.
Par la pratique et les expériences, tu t'es rendu compte que c'était peut-être quelque chose pour toi.
Exact.
Et ce côté ambitieux, pour rebondir sur la question de Lucas, toi, ça vient d'où ? Tu avais un entourage entrepreneur ?
Mon père, il était entrepreneur, mais surtout, avant tout, une envie de réussite personnelle, je pense.
D'accord.
Plus,
ouais. Okay.
C'est le monde du salariat basique ne me plaît pas réellement. Mm-hmm. Je pense que c'est pas quelque chose qui me convient.
T'as parlé de liberté, ça qui te manque peut-être ?
Ouais, la liberté, le fait de pouvoir choisir, le fait aussi d'avoir les conséquences de ses choix. Mm. Parce que ça nous permet d'avoir du recul et de réellement réfléchir avant de faire quelque chose. Mm. Et même si on se trompe, on peut s'en vouloir qu'à soi-même. Mmh. Et j'aime bien avoir cette maîtrise-là dans mes mains et de pouvoir me dire, j'ai tout donné. Si j'ai réussi, c'est grâce à moi ou grâce à un ensemble. Et si j'ai pas réussi, c'est grâce à moi aussi. Enfin, c'est à cause ou grâce à moi.
Responsable de tes réussites et de tes échecs aussi.
Exactement.
Après, okay. pour Jonas aussi, le parcours, il est différent en termes de d'ambition et de motivation. Lui, c'est quelqu'un qui allait beaucoup plus loin que moi dans les études, tu vois, par exemple. Parce que c'était un domaine, je pense, je parle à ta place, hein, mais qui le passionnait tout de suite. Donc, il avait beaucoup plus cette persévérance. Et il faut aussi dire qu'il y a beaucoup d'idées qu'on a eues qui sont de son origine, tu vois. C'est lui, souvent, qui venait apporter une idée à la discussion. Soit ça partait complètement en cacahuète, ou soit on se dit, bah, allez, demain on tente, quoi.
Et c'est ça ce qui nous a. On s'est bien entendu à cause de ça. Moi, je suis la personne qui a des idées tout le temps, qui va proposer des idées, qui va essayer de toujours proposer quelque chose de nouveau. Et Lucas, il va me dire, non, calme-toi.
Il faut se balancer. Ouais,
c'est le et le mais, quand même. Et moi, je suis toujours, viens, on rajoute ça, viens, on met ça, et viens, on fait ci, et viens, on fait ça. Et Lucas, c'est la personne qui arrive à m'apaiser un peu, à me dire, bon, viens, on se focus sur la bonne chose.
C'est d'être focus. Ok. Voilà. Et donc vous êtes rencontrés au lycée, ouais. Vous avez ce rebond, cette collision d'idées entre vous. Vous dites, tiens, ça marche bien parce qu'on a le même tempérament. En tout cas, on a cette ambition qui est partagée. T'as dit, vous n'avez pas fait les mêmes études, mais du coup, là, vos chemins se séparent ou pas après le lycée ?
Non, on continue ensemble sur un BTS en art graphique. Où je pense que Jonas, toi, t'avais déjà début d'une révélation au lycée. Mais en tout cas, toi, t'as eu la persévérance de continuer. Moi, en BTS, c'était déjà un peu trop pour moi et le cadre, il me convenait pas. Donc après, j'ai eu une période un peu où je me suis cherché. J'ai fait le service civique.
D'accord.
J'ai fait le service civique à ce moment-là parce que j'étais encore dans l'âge et tout. Et moi, j'ai envie de faire aussi un truc un peu dans ce sens-là. Et lui, il a continué licence, master.
Ouais. Moi, à contrario de Lucas, je suis tombé complètement amoureux de cette méthode de travail, de ces cours-là. Moi qui étais avant très très mauvais à l'école, je me suis retrouvé bon, je me suis retrouvé aimer les choses que je faisais. Et je me suis dit, écoute, tant que j'aime, je reste dans ça. Donc j'essaie de pousser la chose le plus loin possible. Ça aurait eu un doctorat ou un...
Et il l'aurait fait.
J'aimais trop l'ambiance. J'aimais trop l'idée. On fonctionnait en workshop, en fait. On avait un mois de travail par rapport à des projets. Mmh. Et à la fin de ce mois-là, on était noté par rapport aux projets qu'on avait réalisés.
D'accord.
Et je trouvais ce système super, super intéressant dans notre milieu.
Donc, c'était le fait de pratiquer ou c'était le fait de faire à plusieurs ?
C'est un mélange de tout. C'est le fait d'être en groupe. C'est le fait de pouvoir proposer des idées, d'être challengé sur ces idées. C'est le fait d'être mis en
compétition,
compétition avec d'autres équipes. Mmh. C'est le fait aussi d'être en alternance. L'alternance... Je trouve que c'est une très très bonne idée pour les gens qui ou qui savent pas quoi faire ou qui veulent avoir la certitude que l'endroit où ils vont c'est le bon endroit.
Oui, parce que du coup ça te permet de te rendre compte, tu le pratiques, t'es dedans et tu vois si c'est formateur pas, tout simplement quoi.
Ouais, c'est ça et c'est formateur. Okay. Tu ressors de n'importe quelle entreprise, en tout cas t'as les us et coutumes de l'entreprise, tu sais comment te comporter en entreprise, tu sais comment travailler en entreprise. Et même ça c'est des cartes qui sont super importantes pour monter sa boîte, pour essayer de faire quelque chose de d'un peu près convenable au début.
Donc pour toi, Jonas, une révélation, tu te rends compte que c'est ce qui te plaît.
Que j'aime l'école.
Que t'aimes l'école. je te posais cette question, pourquoi ? Parce que t'aurais très bien pu aussi décider de te lancer tout seul. Et donc c'est pour ça que je te disais, est-ce que c'était le fait d'être en pratique ou le fait d'être à plusieurs qui t'intéressait ?
C'est un mélange des deux parce que ça ne m'a pas empêché de monter mon autre entreprise à cette époque-là.
D'accord.
La chance d'être en stage et en alternance, ça te permet d'avoir des contacts. Si tu travailles bien, ça te permet d'avoir potentiellement des projets qui découlent de ces contacts et de ces alternances. Donc non, moi c'était un mélange et d'un côté j'étais en cours, et de l'autre côté j'étais au travail, j'avais mes projets. C'était pour moi un mélange parfait.
Ok, Alors, donc là, chacun suit son parcours. À un moment donné, vous restez en contact, j'imagine.
Je pense qu'on s'est même presque jamais autant vu que quand on n'était plus forcément.
Cursus. Okay.
Ouais, on partait en vacances. On a fait des trucs.
On partait au moins une fois par an en vacances ensemble.
Ouais.
Okay. C'était notre moment où on libérait un peu le cerveau. On se rappelait des bons moments.
Ouais, c'était cool.
Chacun vous avancez dans vos carrières et à un moment donné vous retrouvez pour lancer la boîte. Comment ça s'est passé? C'était quoi le déclic? Et concrètement, comment vous avez dit ok, go, on y va quoi?
Moi, ma situation à l'époque, donc si je me souviens bien, moi je travaillais dans un cabinet d'audit financier parce que ça nous renvoie il y a aux alentours de 2 ans maintenant. Mmh. Je travaillais dans un cabinet d'audit. C'était pas l'éclate et en fait je voyais pas trop je comprenais plus
faisais quoi dedans?
Moi je m'occupais des appels d'offres.
D'accord.
Ouais, c'est des consultants et donc je m'occupais des appels d'offres pour eux.
Plutôt commerciale.
Ouais, c'est une dimension commerciale, c'est une dimension administrative. Ça me convenait pas. Et
faut remplir des cases.
Ouais, c'est ça, faut remplir des cases. Après, moi, je suis quand même partisan il faut faire quelque chose quand même. Il faut faire quelque chose. Donc, en fait, concrètement, après le BTS, j'ai quand même eu, même si j'ai toujours été actif, un long moment de qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi. Qu'est-ce que je suis en train de faire et tout. Et on n'a jamais arrêté de s'échanger des idées en permanence. Et puis, il y a eu cette idée-là, justement, de 9T, de quelque chose que Jonas a réalisé, dont il m'a parlé. Et pour une fois, je me suis dit, là c'est un peu plus intéressant que d'habitude, là. Parce que là, il y a un marché, il y a un prix, il y a un montant. Il n'y a pas forcément de solution, ou en tout cas, on n'a pas fait la recherche encore pour avoir la réponse. De ce que je connais, je ne vois pas de solution. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'un produit est authentique quand on l'achète sur Vinted ou autre? C'est vrai que difficile d'y répondre. Et en fait, c'est en se disant, c'est quoi? On va tous les deux chercher un peu dans le coin, on continue ce qu'on fait en parallèle, et jusqu'au jour où on s'est dit,
vous avez commencé à investiguer.
Exact.
Ouais. Et comment t'es venu l'idée alors, toi?
C'est un mélange de beaucoup de choses. Déjà, j'ai un carnet avec tout ce qui me passe par la tête, je l'écris.
Tu notes ?
Toutes les idées que j'ai, tous les...
Alors, est-ce que tu notes, mais surtout, ça ok, mais est-ce que tu y retournes les voir ? Parce que souvent, on a des carnets, des notes, mais on s'en nourrit pas par la suite.
Oui et non, on va dire que je les mets au même endroit, comme ça, je retourne sur l'endroit où il y a toutes mes notes, mais je vais pas toutes les lire à chaque fois. Ça, c'est vrai. Mais j'ai un espèce de sanctuaire où je vais mettre toutes mes idées. Et là, juste l'idée, on en a parlé au bon moment. On était dans un bon moment de notre vie. Moi, j'étais encore... je venais de quitter ma boîte. J'étais dans une agence de publicité. J'avais créé mon studio de 3D pour répondre à la problématique qu'on avait vue dans l'agence. Et en proposant l'idée à Lucas, on a tout de suite accroché. On s'est dit pourquoi pas essayer, pourquoi pas prendre un peu de temps de nos journées pour voir si c'était possible.
Donc là, vous gardez, toi, tu avais déjà ton activité, toi, tu étais encore en poste, mais tu t'es dit, tiens, c'est intéressant. Et là, vous passez du temps le soir ou le week-end ou sur votre temps off pour investiguer et confirmer qu'il y a un marché.
Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais.
Ça, vous aviez déjà fait? Vous aviez déjà l'expérience là-dedans ou c'était une découverte pour vous?
Non, c'était une découverte pour... Pourquoi c'était une découverte? Parce que quand tu le fais de manière sérieuse, tu es obligé d'être un peu méthodique, tu vois. Tu peux pas partir dans tous les sens et tout. Donc, comprendre... en fait, il y a un vrai protocole pour investiguer. Sinon, tu vas perdre énormément de temps dans...
C'est pas 3 recherches Google.
Ouais, tu vois. Et en plus, 3 recherches Google peuvent t'amener à 15 recherches Google qui vont t'amener à 200 recherches Google. Et à la fin, tu n'as pas forcément de réponse à ta solution. Donc, non, cette version-là, un peu simpliste, on l'a fait des millions de fois, je pense, à chaque fois. Mais moi, j'avais des vraies questions. Et donc, il fallait que je sois un peu protocolaire, un peu relou, entre guillemets, pour avoir ces réponses, tu vois. C'est-à-dire que c'était très marrant. Au début, on avait des discussions où, Jonas, il était à fond, on va faire ça, on va faire ça. Je dis, ouais, mais on sait toujours pas. Ouais. Si, tu vois, on sait toujours pas ça.
L'idée est bonne, mais après, il faut la confronter à un marché, des chiffres, enfin, de la data qui existe.
C'est pour ça, valider le marché que j'étais déjà en train de penser aux features d'autres
applications.
On pouvait essayer de lever des fonds ou...
D'autres applications, puis on a tenté un milliard de trucs qui étaient plus ou moins succès ou pas de succès. Après, il y a aussi une question de période et de timing dans ce que tu fais. Mais en tout cas, cette partie investigation, et elle est toujours en cours, tu vois. La veille concurrentielle, tu l'arrêtes jamais.
Oui, tu fais toujours tout au long de ton parcours entrepreneurial de la veille, enfin ton marché. Je veux dire, celui qui connaît pas son marché, c'est un peu compliqué pour lui.
Ouais, en permanence.
Ok, donc c'est là où donc et comment tu dis la méthode, tu l'as trouvée où? Tu l'as appliquée par toi-même? Tu t'es entouré de mentors, d'entrepreneurs, de dirigeants, d'organismes? Comment t'as fait?
Ah ouais, tu poses des très bonnes questions. Bah déjà, j'ai demandé à la personne la plus proche de moi, qui est mon père. Donc, je lui ai demandé comment est-ce que toi tu ferais pour répondre à ce problème. Il dit bah écoute, c'est très très simple, tu ouvres une feuille Excel et tu poses toutes les questions, quand, quoi, où, comment, pourquoi. Et une fois que j'avais plus ou moins ces réponses là, il faut savoir aussi que Jonas et moi, par notre parcours et tout, on n'a pas forcément fait des études dans l'entrepreneuriat, des écoles de commerce et tout, donc on manque de réseau, tu vois. Et donc on en est venu à la conclusion, mais ok, donc on veut faire ça, on veut l'emmener à peu près là, voici la taille du marché, à nous deux on est mort. Mais c'est sûr, on est mort. Donc, il faut absolument qu'on s'entoure le plus vite possible de personnes qui vont soit répondre à nos questions, soit nous présenter des gens qui vont répondre à nos questions.
Soit nous challenger.
Ou soit nous challenger, tu vois. Donc, tout de suite, ça a été la recherche vers... et encore, parce qu'on a mis beaucoup de temps, on a eu des grosses discussions. Tu sais, comme chaque entrepreneur au début, on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas? Mais non, mais si on en parle, on va se faire voler.
Pour nous,
ouais, on va se faire voler et tout. Donc, ça, c'est déjà le premier défi. Tu vois, c'est... Non, il faut que tu sortes de ta chambre. Tu sors le truc de ta chambre.
Et comment vous êtes passé à ça, à ce déclic-là, de se dire bon bah non, on garde l'idée pour nous, hein, finalement on va la partager avec tous les risques que tu viens de citer.
Je pense que ça a été les validations aux différents incubateurs qu'on a fait.
Ouais.
Qui nous ont fait passer un cap et nous dire que notre projet il était, il tenait le coup, qu'il était défendable et que ce qu'on proposait c'était pas qu'un rêve qu'on avait dans nos chambres.
Alors on va y venir justement à la notion d'incubation, de comment vous y êtes arrivé, de qu'est-ce que vous avez présenté à ce moment-là, parce que est-ce que vous étiez avancé, moins avancé, il y a la fameuse, vous savez, ce qu'on dit souvent, lever des fonds sur juste un PowerPoint, voilà, en fait c'est où est-ce que vous en étiez de l'idée, qu'est-ce qu'il y avait de concret ou pas concret à ce moment-là, ça on en parlera dans la partie incubation. Mais donc du coup pour finir sur la première partie et comment vous avez décidé de vous lancer, donc vous avez analysé le marché, vous avez regardé, donc c'est quoi par exemple si vous avez 2-3 chiffres à nous donner sur votre marché, ça donne quoi?
Bah, ça donne un Français sur 3 a déjà acheté un produit contrefait sans le savoir.
D'accord.
Donc ça c'est un énorme problème, tu vois. Le bilan global de la contrefaçon, tout secteur confondu, c'est 1000 milliards de dollars. Donc pour juste un petit titre de comparaison, c'est le PIB de la Hollande.
D'accord.
En termes de value. Et la douane, tu vois, elle saisit tous les ans plus de 11 millions d'articles dans les aéroports de Paris, enfin de France de manière générale, parce qu'ils sont contrefaits. Donc nous, on s'est dit, et il n'y a pas de solution, quoi.
Oui, et même ce que proposent les marques, c'est des solutions qui sont très, très, très anciennes encore. On est encore sur le format des certificats papier, avec une carte qui est censée se rattacher à notre produit. Cette carte, elle peut être falsifiée, elle peut être perdue, elle peut être volée. On est encore dans quelque chose de très, très archaïque alors qu'on est en 2024 et qu'on a toute la technologie devant nous qui nous permet de sécuriser ces choses-là.
Oui, parce qu'aujourd'hui, si on compare les solutions, il y a les certificats papier dont tu parlais, il y a tout ce qui est gravure aussi, on le voit dans les voitures, les vélos maintenant aussi, parce que les vélos commencent à coûter aussi plus cher avec... les batteries et tout le reste.
Mais ça, ce n'est pas des choses qui bloquent la contrefaçon de luxe. Quand un produit coûte cher, le fait de graver des numéros sur le produit, ce n'est pas compliqué. Enfin, ce n'est pas un frein pour la contrefaçon. D'accord. Il faut vraiment trouver une solution, une technologie qui est réellement un frein à la contrefaçon et qui permet d'authentifier le produit et d'être sûr que le produit qu'on a entre les mains, il est vrai. C'était tout ça notre challenge, c'est de trouver le... comment rattacher l'objet au certificat et que ces deux-là soient indissociables.
Ah, indissociables.
Indissociables, pardon.
Indissociables.
Et bien, vous allez nous expliquer ça après. Pour finir, du coup, donc vous avez regardé le marché, vous dites là, il y a un truc à faire. Qu'est-ce que vous faites? Vous créez la boîte?
Non.
Vous allez voir des gens? Vous montez un dossier? Comment ça se passe?
Je crois que la première chose qu'on fait... déjà nous on passe par une phase d'idéation où on dit on a besoin de la blockchain. Donc la blockchain, qu'est-ce qu'on fait? On s'intéresse déjà à ce qui se fait dans l'écosystème français de la blockchain. Donc nous on a là...
J'y connaissais rien.
Rien du tout. Enfin, Jonas plus que moi parce qu'il a toujours été un peu en veille là-dessus. On parlera sûrement peut-être un peu des NFT aussi, mais lui, il était vraiment, vraiment là-dessus. Donc grand trou d'informations qu'il faut absolument qu'on comble. Absolument.
Et là-dessus, la littérature, elle est principalement anglaise. Toi, ça t'aide?
Ouais. Ouais, mais il y a des choses qui se font aussi en France et à Paris. Ouais, hein. Ouais, si tu cherches bien et que tu t'y intéresses et tout, tu vas trouver des gens qui vont pouvoir te poser, enfin qui vont pouvoir répondre à tes questions. Donc on trouve un espèce de bar. Genre crypto friendly et tout. On se dit bah écoute, on va aller voir, on va poser des questions et tout. Et bon, on n'a pas forcément de réponse, mais on commence à rencontrer des gens. Ensuite, par une autre personne que Jonas connaissait de par son frère, qui était incubé à la station F, nous dit mais venez postuler. Enfin voilà quoi, ça peut être ultra ultra intéressant. Donc on postule une première fois, on se prend une porte.
Ah oui.
Ouais.
On se prend une porte. C'était quoi les retours?
Pas prêt.
Ouais.
Pas prêt. Puis en plus, on postule à l'équivalent d'un programme vraiment pour les gens qui sont un peu plus avancés que nous avec des métriques et de l'attraction. Nous, on n'a rien. On a
tout début, quoi.
Un Figma, un Miro et un Drive, tu vois.
Nous, on vend une belle image au début. On a l'idée. L'idée, on sait qu'elle est faisable. On sait que c'est une bonne idée. On n'a rien. On ajoute une belle image due à nos années de graphisme et de direction artistique. Mais
Ça prouve déjà l'image. Le sérieux quand même du projet. C'est-à-dire, ça vous permet de montrer, en tout cas dans la forme, même si le fond n'est pas toujours compris ou pas assez avancé pour certains, ça vous permet de dire, ok, on est quand même crédible.
Oui,
exactement. Et donc, je crois qu'on se prend une première claque à ce moment-là. Il y a une première remise en question. On dit non, on continue. Donc, on continue aussi d'essayer de se renseigner sur cet écosystème blockchain et NFT. On réussit à rentrer dans une communauté un peu privée et tout, qui organise des rendez-vous tous les jeudis. Donc là, on rencontre des gens aussi. Et puis, on retente la station F et on est pris.
D'accord.
On est pris dans un programme, donc on y participe et tout. Et là, gros challenge, tu vois. Y a des rendus toutes les semaines. Et puis nous, sur le papier, on a pas grand-chose, tu vois. Donc, il faut un peu faker, il faut un peu être un peu malin. Mais ça se passe plutôt bien au point où on y croit vraiment, tu vois. Parce que c'est un peu le parcours. Tu parles aussi de levée de fonds. Station F, c'est aussi un peu un rêve d'entrepreneur, de se dire ah, c'est comme un estampillage. Et on n'est pas pris.
D'accord.
Alors que pendant tout le parcours, on reçoit que des commentaires de dingue et tout. Toute la communauté Station F aime beaucoup notre travail, les rendus en tout cas qu'on fait chaque semaine. Et on n'est pas pris.
Raison.
Un moment de timing. Moi, je pense que c'est le timing. On n'était pas dans le bon timing, dans le bon moment, dans le... C'était pas notre moment.
Ok. Je reviens sur le cadre, la notion de cadre. Tu disais que c'était timé, rythmé. Vous avez tous les deux dit que voilà, le cadre, c'était potentiellement compliqué parfois pour vous, que vous aimiez être libre. Là, le fait que ce soit rythmé ou autre, comment vous l'avez ressenti, vécu ou pris? Parce que autant parfois, ça peut être contraignant. Autant quand c'est la première expérience entrepreneuriale comme vous, peut-être que c'est aussi, ils nous ont aidés à avoir un cadre et avancer, structurer notre projet, alors que jusque-là, on pouvait... Et c'est le problème de l'entrepreneur, quand il se lance, c'est qu'il ne sait pas par quoi commencer. Il y a tout ça devant lui, mais je mets les étapes dans quel ordre?
Pour moi, c'était un challenge.
Ouais.
Toutes les semaines, il fallait rendre quelque chose... Enfin, il fallait répondre aux problématiques qu'il nous avait énoncées par rapport à notre projet, par rapport au bébé qu'on était en train de construire. Donc, c'était que des... C'était que positif et c'était que des choses qui nous ont permis d'avancer dans le projet. Donc, c'était que des challenges et que des choses qui étaient intéressantes à voir.
Ok.
Ouais, je pense qu'il y avait deux visions.
Ouais.
Déjà, encore une fois, on revient un peu au parcours. Jonas qui est beaucoup plus scolaire que moi, donc pour lui, c'était de l'évident, tu vois. Non, mais il y a un rendu à faire, voici ce qu'il demande, on le prépare, on le rend. Moi, je me suis très vite fait parce que tu pars du principe, en fait, que... et ça, je pense que ça s'applique à tout dans la vie. À partir du moment où tu es passionné et tu arrives à t'auto-motiver, tu le feras, peu importe le cadre, tu vois. Et ça sera même sans douleur, en fait. Tu le sentiras même pas passer. Si tu crois en ce que tu fais et que tu as un objectif à la fin, même si pour nous, on s'est pris une petite porte, mais on y a cru, donc on ne s'est pas posé de questions, quoi. On l'a fait, c'était ça qu'il fallait faire. Et puis, ça donnait ce que ça donnait, quoi.
Ok, à ce stade-là, il n'y a pas d'entreprise créée?
Non.
Non, toujours pas.
Pas encore, ok. Qu'est-ce qui vous fait passer le cap?
Qu'est-ce qui ne nous fait pas passer le cap à ce moment-là? À ce moment-là, déjà, nous, on lance, on a quoi? On a 25 ans, un truc comme ça. Et nous, on ne sort pas d'une grosse expérience entrepreneuriale précédente, donc on n'a pas de capitaux de base, on n'a rien du tout.
Mais t'as pas de fonds pour lancer.
Non. On a, je pense, bien gagné nos vies tous les deux un peu avant, donc on a un peu d'argent de côté pour pouvoir créer le truc. Mais quand tu ne fais pas attention, ça part vite. Ça part vite. Donc, on se retrouve très vite avec ce souci de trésorerie. Et quand tu crées une boîte, généralement, très, très rapidement, tu as des frais. Donc, tu as les premières taxes. Et puis, en plus, nous, on avait un site internet. Donc, tu as des factures qui tombent tous les mois. Très vite, tu te...
Et ton cash burn, il monte vite. C'est-à-dire, tu as tes charges. Que tu aies de l'activité ou pas, tu as des charges.
Tu prends des engagements. Alors, c'est sûr, quand tu as un capital, 300 euros, c'est rien, tu vois. Mais quand ça
s'amenuise...
Non, c'était pas notre capital.
300 euros de capital.
Non, mais si ça s'élève à... Si tes frais s'élèvent, on va dire, sur ce montant-là, et que toi, ton capital, il fait que de baisser à côté, et à la fin, t'es en déficit, quoi, tu vois.
Bien sûr.
Donc, nous, on a pris la décision d'attendre le plus tard possible.
Et il y a ça, et il y a le fait aussi des subventions aussi, qui sont attachées à la date de la création de l'entreprise.
D'accord.
On peut avoir des subventions que si l'entreprise a moins d'un an ou enfin et tombe dans certaines dates.
Donc si tu l'as créé trop tôt et que tu as mis du temps avant d'avancer sur le proto ou toutes les autres
étapes. Tu te grilles pas mal de cartes, quoi.
Voilà, ça peut.
Donc, des moments, vaut mieux attendre un petit peu pour créer la boîte au bon moment et avoir tout ce qui va à côté pour.
Ok. Pour la monter. Bon, on va doucement glisser vers la deuxième partie. Avant ça, ce que j'aimerais comprendre, c'est vous en avez parlé, vous avez des profils complémentaires, même si vous avez fait un bout d'études ensemble. Comment vous avez fait pour répartir les rôles sur qui fait quoi? Est-ce que ça fait naturellement? Est-ce que vous dites, moi j'ai plus cette appétence-là, donc c'est plus une question d'envie? Moi j'ai plus ces compétences-là, donc je vais plus vers ça. Voilà, comment ça s'est fait pour vous?
C'était un mélange d'envie et de compétences, je dirais. Moi je me sens beaucoup plus à même de travailler sur tout ce qui touche au design, aux chartes graphiques, à l'UI, à l'UX du produit et de la technologie. Donc je me suis beaucoup plus focus sur ça. Et Lucas qui a un backup de vente et de commercial, il a un peu récupéré la partie démarchage et...
D'accord. Mais ça se fait naturellement ou vous avez une roadmap? Vous dites, il y a tout ça à faire, voilà, qui fait quoi? Est-ce que vous avez structuré ça ou ça se fait intuitivement?
Au début, ça se fait un peu... c'est archaïque au début. On prend ce qui nous plaît, on essaie de faire au mieux, on chevauche un peu sur certains travails. Et maintenant, on a une to-do, on a une roadmap. Chaque semaine, on se dit ce qu'on doit faire, les objectifs de la semaine, qu'est-ce qu'on doit rendre, jusqu'à où on peut aller. Et nous, on a une sale habitude, c'est de se mettre beaucoup plus de travail qu'il ne l'en faut. On aime bien charger les semaines pour se dire que même si on n'y arrive pas, au moins, on aura fait plus que ce qu'on aurait fait de base.
Ok, viser la lune pour au moins toucher les étoiles.
Exactement. Un truc comme ça, ouais.
Ouais. Quand ça fonctionne, quoi.
Ok. Donc, vous définissez les rôles de cette manière-là. Comment vous faites pour tout ce qui est aussi part d'entreprise? Comment vous faites un 50-50 ou vous faites différemment? Gros sujet,
forcément. À la base, Jonas se libère avant moi de ses obligations, donc il a plus de temps. C'est lui qui apporte l'idée. La répartition elle se fait à ce moment-là. Il prend plus de part que moi parce qu'il a plus de temps, il travaille plus dessus. Moi j'essaie de le rejoindre quand je peux, donc on se met d'accord là-dessus. Déjà on est parti tout de suite sur le fait que ça serait un non-sujet. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on puisse
s'en parler,
parce qu'il y avait un sujet de levée de fonds aussi à un moment, donc on en est bien revenu maintenant, mais il y avait un sujet de levée de fonds et là les parts c'est important quand tu veux lever des fonds. Donc au début ça se passe comme ça et puis au fur et à mesure en fait on a glissé vers un truc qui ressemble à du 50-50. Au plus on se libérait, au plus on prenait de travail dans le...
En fait, c'est la force et l'inconvénient d'être amis. C'est qu'on peut tous dire, on doit tous dire, mais il faut faire attention à la manière dont on se le dit. La manière dont on se le dit, au moment où on va se le dire. Mais c'est un truc qu'on a mis dès le début. Il faut qu'on puisse négocier, il faut qu'on puisse se dire toutes les choses. Que ça soit sur le capital, que ça soit sur un client, que ça soit sur une idée, que ça soit sur...
Et comment vous faites, du coup, vous avez des temps dédiés à ça ou pas? Parce qu'on le voit sur ce podcast, moi je reçois des gens qui sont en famille, qui ont des parentés, d'autres c'est des amis, d'autres ils ne se connaissaient pas du tout avant ou c'est des anciens collègues. Est-ce que voilà, vous avez des temps pour vous pour arriver à maintenir cette relation initiale que vous avez de copains? Est-ce qu'en fait vous dites non, le week-end on ne parle pas du tout de taf, on n'est que... Lucas et Jonas. Enfin, comment vous...
Nous, on a mis un petit truc en place. Dès qu'il y a une bonne nouvelle, on va manger dehors.
D'accord.
Déjà, ça, c'est ultra important. Il faut qu'on puisse célébrer un peu les petites victoires et tout. Et donc, à ce moment-là, généralement, je pense qu'on ne parle pas beaucoup de boulot quand on mange dehors. On parle de sport beaucoup.
Et après, on arrive quand même, dans le travail, à dissocier la partie où on doit bosser et la partie où on rigole, où on peut se prendre 10-15 minutes dans la journée à charrier un peu, à s'envoyer des petits pics sur le travail et après à se remettre sur le travail. On a réussi à trouver un bon rythme. On travaille chacun de nos côtés, vu qu'on n'a pas encore de bureau, mais on est non-stop sur Discord. Okay. C'est l'endroit où on met toutes nos infos, c'est l'endroit où on fait nos meetings, on reçoit toutes les personnes avec qui on discute. Et on a trouvé un bon, un juste milieu avec ça. C'est-à-dire qu'on est toute la journée, je peux être là pour Lucas s'il a besoin de moi, mais quand on a besoin d'écouter de notre musique ou d'être un peu plus tranquille sur un travail, on le fait sans aucun problème.
Et Discord, pour vous, c'est que c'est générationnel ou c'est par votre secteur d'activité ?
Moi, c'est un mélange de tout. Avant, j'étais sur TeamSpeak, mais c'est beaucoup plus simple, Discord. Mais non, c'est un mélange de tout. C'est générationnel. C'est venu parce que je jouais au jeu aussi. Et Discord, c'est quand même très, 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 très rapproché au jeu. Je trouve ça beaucoup plus simple qu'un Google Meet ou qu'un Zoom.
Après, c'est aussi beaucoup lié à la communauté un peu crypto et tout. Il y a des grosses communautés sur Discord. Donc, la première chose qu'ils vont faire, c'est t'inviter sur leur serveur, leur channel, parce que voilà, ils vont drop des projets ou des tokens et tout.
Ça reste très familial comme endroit. Tu as des channels, tu as des endroits où tu peux discuter, tu as des chats vocaux.
Mais ça, par exemple, c'est pour vous, votre secteur d'activité, les gens que vous connaissez ou la communauté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous êtes les premiers sur ce podcast à me dire, nous, c'est Discord, notre outil privilégié. Vous visez le luxe, enfin les maisons de luxe. Je ne sais pas si toutes les maisons de luxe sont connectées sur des Discord ou pas, ou si vous voulez faire des meetings avec eux.
On ne communique pas sur Discord. Discord, c'est juste un outil interne de pouvoir discuter. Non, ce n'est pas notre outil de discussion.
C'est un réel avantage pour nous parce qu'on est dans notre serveur et on est là toute la journée. Si on a besoin de s'échanger ou de se parler, on est disponible.
Donc c'est que pour l'interne, c'est
c'est pour nous et c'est pour discuter entre nous.
Ok, bah écoutez, merci. On va passer à la deuxième partie. On va rentrer dans justement cette entreprise qui arrive sur un marché, qui participe à un concours, Plug and Start, et donc qui continue son envol. Cette partie, donc, c'est comment vous avez fait pour vous attaquer au marché de la contrefaçon. Vous n'êtes pas les seuls, et donc vous allez nous expliquer comment vous différenciez et quel est votre point de différence sur ce marché. Ce que je veux ici arriver à comprendre, c'est... qu'est-ce que, une fois que vous avez déterminé le concept de l'entreprise, a fait que vous avez créé concrètement la boîte, vous avez participé à des concours et commencé à essayer d'aller chercher les premiers clients.
Est-ce que tu veux que je commence par quelque chose en particulier ?
Non. Justement, tu disais par rapport aux subventions ou autres, il fallait attendre à un moment donné.
Ouais.
C'était quoi quand est-ce que vous avez créé la boîte, concrètement ?
C'est très récent, nous.
Ça fait combien de temps ?
C'est très récent, c'est début d'année.
Donc là, 2024 ?
Ouais, 2024.
D'accord.
Parce qu'il y a un élément déclencheur, comme tu le disais. C'est le développement d'un POC chez un client. Donc, c'est le premier POC. C'est un truc qu'on va installer chez quelqu'un qu'on est en train de travailler. Et donc là, il fallait absolument qu'on crée la structure. Quoi. Parce qu'il faut signer des contrats. Il faut peut-être... on est sur une embauche aussi. Donc, les subventions. Il faut avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir être partenaire d'une autre entreprise. Et avant ça, ça ne nous a pas forcément semblé pertinent et obligatoire. Je dirais.
Mais vous aviez avant ça, vous n'aviez pas signé de contrat ou de client ou de partenariat ou autre, donc vous n'aviez pas cette contrainte légale ou administrative en tout cas.
Non, le seul document un peu juridique auquel on s'est tout de suite attelé, c'est un pacte d'associés.
D'accord.
Très rapidement.
Et vous avez fait par vous-même avec des outils ou avec un avocat ?
Il y a eu une grosse période où on a cherché des avocats, donc. Avec des montants mirobolants pour pouvoir faire le moindre truc. Donc, on s'est dit, on va passer par Legal Start ou un truc comme ça, tu vois. C'était très simple.
C'est une des solutions du marché qui permet de...
Et donc, on a fait un pacte d'associés sur Legal Start.
D'accord. Donc, c'est vous-même qui avez discuté des différents termes.
Exactement.
On s'est appuyé quand même sur une trame, tu vois, sur quelque chose qui existait déjà. On n'a pas non plus inventé des trucs.
Il y a eu des sujets vous n'étiez pas aligné.
Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'était pas alignés ? Je pense qu'on était alignés sur à peu près tout.
Parce qu'en fait, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais fait de pacte d'associés, c'est une sorte de contrat qu'on fait entre les associés pour déterminer les règles entre nous. Et donc, bah, potentiellement, il peut y avoir des sujets, que ce soit sur les parts, sur les rôles, sur l'implication, sur voilà, tout un tas de choses. Et un petit peu comme quand on fait un contrat de mariage ou qu'on se paxe ou autre, bah, on est obligé de penser aussi aux mauvaises situations qui peuvent arriver, même si sur le moment, on est plein d'énergie, plein d'entrain, on a envie de se lancer, on pense que ça va marcher. Mais il faut aussi penser au moment un peu plus compliqué.
La seule chose qu'on avait prévue, du coup, c'est c'est une clause qui nous protège en cas de cession de part. Si l'un d'entre nous veut partir, il est le deuxième associé est prioritaire sur le rachat des parts, pour pas qu'il y ait un tiers qui rentre
pour
dans le
la table de capitalisation.
Sinon, on n'a pas eu de point d'accroche.
On l'a construit ensemble, donc on y a tous les deux mis nos clauses et nos conditions, et ça nous a satisfait, quoi.
Ok, bon, super. Plug and Start, comment s'est passé? Pourquoi vous y êtes allé? Comment vous avez découvert le concours?
Si tu veux, je peux le prendre. Bah donc on était, alors Plug and Start, ça nous ramène à l'année dernière maintenant. Je crois que c'était un tout petit peu avant l'été. Tout petit peu avant l'été, où ça commençait l'été.
Et c'est un concours de circonstances.
Ouais, c'est un énorme concours de circonstances. Bah comme on le disait, nous on était en train d'essayer de chercher du support de tous les côtés, tu vois, vraiment de l'information, du soutien et tout. Donc on était à la station F, on avait été accepté et on avait été invité à visiter le salon Go Entrepreneur. Où en fait on s'y rendait dans un premier temps pour vraiment chercher des réponses auprès de l'INPI, de la BPI, de toutes les structures un peu et des forces présentes. Et on est passé devant le stand Plug and Start de la Technopole de l'Aube, et puis on a rencontré les gens de là-bas, quoi. Et donc on a postulé pour le concours. Ils nous ont déjà dans un premier temps, on a pitché, je crois.
Ouais.
On a pitché sur le stand et ils nous ont dit bah les gars, postulez, quoi.
Ok.
On a candidaté une première fois sur leur site internet où ils regardent notre projet, ils le valident plus ou moins. Et après cette première validation, on est donc parti à Troyes un matin. Je m'en rappelle. Et donc on a passé trois jours à Troyes pour Plug and Start, à remettre en question notre projet, à challenger notre projet et à le décortiquer pour voir où ça allait, où on pouvait améliorer les choses et jusqu'à où on pouvait aller.
Et comment ça se passe à ce moment-là quand vous arrivez, vous n'avez pas de prototype, si ?
Qu'est-ce qu'on avait ?
On a un Figma, on a un pré-prototype sur Figma qui nous permet de montrer...
Vous n'avez pas quelque chose de fonctionnel, quoi. Vous avez une illustration de ce que vous avez, de votre idée, vous l'avez modélisée.
Modélisé.
Là, vous la soumettez à des experts, des mentors, des entrepreneurs.
Exactement.
D'accord, qui vous font les retours.
Ça se passe en 3 jours. Et donc, pendant ces 3 jours-là, on est challengé par des spécialistes de notre secteur et du secteur. On a divisé le...
Donc, il y avait des experts, blockchain, NFT, etc.
Ouais, il y avait de ça. Il y avait aussi des gens qui étaient présents de la part de la BPI, de l'INPI et tout aussi, du territoire.
D'accord.
Pour pourvoyer des solutions à nos problématiques. Il y avait aussi beaucoup de workshops. Mais je crois que dans un premier temps, on n'a pas forcément... Le seul moment où on a eu un vrai échange concret sur notre projet, c'était avec quand les mentors sont arrivés. Parce qu'on a été... on nous a désigné des mentors. Et là, c'est là que le vrai challenge, il commence. Tu vois. Parce qu'eux, ils sont dans le... c'est des entrepreneurs. Donc, ils vont décortiquer. En fait, ils vont parler chiffres tout de suite. Ils vont te parler chiffres, ils vont te parler réalisations, milestones et tout. Et là, t'es plus en train de faker.
Vous étiez prêt ? Pas prêt à ça ?
Ah, c'était dur.
C'était dur.
Ouais, c'était une petite claque.
Et pourtant, c'est la réalité.
Ouais.
C'est-à-dire que là, quand cet événement vous permet de rencontrer ces mentors et ces entrepreneurs qui challengent, parce qu'ils sont déjà passés par là, donc ils apprennent.
En plus, ils sont de toute taille, tu vois. C'est-à-dire que ça peut être des gens qui sont plus ou moins à ton niveau, mais ils sont un peu plus avancés. Et t'as aussi du gros, tu vois. T'as de l'industriel, t'as des gens qui, tous les jours, ils dealent avec des gros chiffres. Et donc, un retour comme ça, c'est eux aussi, je pense, c'est aussi une expérience pour eux parce qu'ils se mettent à échelle. Et nous, de prendre...
nous challenger pour nous essayer de se mettre à leur échelle.
Ouais, c'est ça. S'imaginer ce qu'ils pourraient faire.
Vous sentez comment ? Vous dites, OK, il y a encore une grande marche à passer.
Ah, pas bien. Pas bien. Déjà, on manque de sommeil, déjà.
Ouais, parce que ça a été 3 jours très, très chargés. Très intenses. Où, en fait, chaque jour qu'on passait, on essayait de mettre à jour notre projet le soir.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on se couchait tard, on se levait tôt. Et à la fin de ces trois jours, on avait ce qu'on a... Un jury, c'est ça ? Enfin, une...
Ouais.
Ouais.
Enfin, un jury. C'est un concours.
C'est un concours. On avait un jury avec, avec des prix qui étaient décernés à la fin. Mmh. Donc, beaucoup de stress. Beaucoup... L'envie de bien faire, surtout.
Puis l'ambition de gagner, peut-être, quand même.
Complètement, ouais.
Ah, de ce que j'ai cru comprendre de vos profils, quand même.
Ouais, il y avait un peu de challenge là-dedans, ouais. Ouais, je vais pas mentir.
Non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en trois jours condensés, vous avez gagné des années, quoi, ou des mois de réflexion sur votre projet.
C'est facile, six mois d'avancement en trois jours.
Après, il faut aussi avoir le recul de pouvoir digérer assez rapidement tout ce que tu vas te prendre pendant les trois jours, tu vois.
Oui, parce que tu peux avoir des profils qui disent voilà, on a pris une claque, on va se coucher, puis on verra demain. Et vous, par contre, au contraire, ça vous a motivé, vous vous êtes dit ok, demain on est encore meilleur et on affine. Bah, parce que les questions qui sont posées sont pertinentes.
Oui. Ouais, les questions qui sont posées sont pertinentes. En plus, t'as pas forcément le temps de réajuster ce qu'on va te donner dans la journée, donc il faut que tu trouves le temps. Donc le temps, c'est forcément sur un moment où tu dors et ou autre chose. Ouais. Et surtout, nous, on le trouvait super pertinent, ces retours-là. Donc il fallait absolument qu'on les note et qu'on on en garde trace, tu vois. Ouais. Parce que tu peux très vite voir ces trois jours passer et en fait, t'étais tellement dans le jus que tu sors avec rien. Mmh. C'est hors de question, je pense.
Et même s'ils ne sont pas pertinents, ça nous permet de jauger ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, qu'est-ce qui peut nous faire avancer et... Enfin, d'avoir les cartes en main sur notre projet directement.
Et un truc aussi qui est brutal, j'y pense en même temps que je parle, c'est en fait à quel point c'est bénéfique le retour de quelqu'un qui n'a rien à voir avec ton projet.
Ouais, ce que j'allais vous dire, parce qu'on parlait d'experts qui connaissent, mais il n'y a rien de mieux que finalement quelqu'un qui ne connaît pas du tout, qui arrive avec un regard complètement différent, peut-être parfois naïf, mais qui va vous faire voir quelque chose que vous ne voyez pas parce que vous êtes tellement dedans que...
Mais même si c'est un expert de ton domaine, il va forcément te poser des questions et t'amener dans des chemins de pensée où toi, tu n'y avais jamais été.
Donc on en revient à ce que tu disais au tout départ, qui était de dire, on a l'idée, mais est-ce qu'on la partage, on ne la partage pas. De ce que je retiens, vous, de votre expérience, c'est vraiment ce truc de dire... J'ai une idée, je la confronte. Mmh. Parce que confronter, c'est pas forcément que dans le sens négatif du terme, au contraire, mais non, positif, de dire ok, tiens, j'avais pas pensé à ce regard-là ou cette perspective sur mon projet.
Et même confronter son idée, ça la valide aussi. Mmh. Plus on a de retour, plus on peut la valider, plus on peut la modeler comme on le sent et comme on sent le marché. Mmh. Et même tomber, c'est que bénéfique. Enfin, de se manger des murs, de tomber, de se tromper, c'est que bénéfique pour un projet.
Bah, et puis j'ai envie de dire, c'est le quotidien d'entrepreneur.
Exactement.
Ouais. Moi, je pense que confronter, la raison pour laquelle on ne confronte pas, c'est parce que c'est un manque d'expérience. Mmh. En tout cas, à notre niveau. C'est qu'on n'a pas souvent, on n'a pas suffisamment été confronté aux bénéfices de confronter notre idée. On s'auto-nourrit un peu trop, en fait, au début, lui et moi, donc de nos compétences et aussi de nos craintes. Donc, on ne se sort pas de ce truc-là.
Dans les startups, de dire, je fais mon projet, je mets 2 ans à le développer, puis je le mets sur le marché. En fait, je me rends compte que je n'ai jamais testé ou jamais confronté. Et ça, il y a des boîtes qui finissent mal comme ça. Donc, vous, ça vous a permis de le faire. Mm. Vous sortez avec quoi de ces trois jours-là ?
Waouh ! On sort avec quoi ? Déjà, je pense qu'on le lendemain, on passe la journée à dormir, je pense. Je pense que, on ne se parle pas pendant au moins un jour.
Et on a passé un mois à tout remettre en place, en fait.
Ouais.
On a tout remis à plat, on est reparti, pas de zéro, mais on avait l'idée de base, on a tout reconstruit par rapport aux nouvelles idées.
Ça a permis de poser un cap, une roadmap.
Et ça nous a aussi permis d'être pré-incubé à la Technopole de Lab aussi.
D'accord.
Le fait d'avoir passé ces trois jours à Plug and Start nous a fait avoir une pré-incubation à la Technopole.
Et ça, alors, comment ça s'est passé, concrètement ?
Déjà, spoiler, on ne gagne pas Plug and Start, malheureusement.
On va gagner à tous les coups. Hein.
Non, on gagne, on perd. Moi, je pense que la pré-incubation, ça a été vraiment un truc, avec du recul, absolument génial. Alors certes, le contexte et tout, il est un peu difficile, il faut aller à Troyes, on est parisien, on n'a pas toujours...
Vous n'êtes pas originaire
de... Non. Mais l'atelier qu'on fait là-bas, donc... qui sont un vendredi sur deux, je crois, de mémoire. Là, du coup, c'est presque du one-to-one, tu vois. Mmh. On est 6, 7.
C'est personnalisé.
Ouais, personnalisé. Et bah là, t'as pas d'autre choix que... En fait, c'est toute la journée. Donc, t'as toute la journée pour bosser sur des thématiques et en extraire l'essence du fond du problème, tu vois. Donc ouais, ça nous a vraiment, ça nous a vraiment permis d'avancer. Et en fait, on en est sorti avec le MVP, mais le vrai, tu vois. Le truc fonctionnel, la solution.
Mois, c'est ça, à peu près.
Ouais, on était déjà en train d'arriver sur cette solution, et en fait c'est avec des discussions où les gens de la Technopole et même leurs partenaires nous ont dit mais les gars vous êtes prêts, vous avez le truc entre les mains.
Ouais, mais t'es là. Maintenant en fait on voulait aller trop loin dans l'idée, on voulait pousser, vu que ça fait deux ans, enfin un an et demi qu'on est dessus, on voulait avoir un produit parfait. Et c'est
ouais, une autre erreur d'entrepreneur quoi.
Non, mais c'est une vraie question, hein. Moi j'ai pendant des années j'ai été perfectionniste en me disant faut que tout soit parfait, et puis après j'ai switché pour l'optimalisme en disant bah, c'est quoi le minimum acceptable, c'est quoi ça. En tout cas qui va donner le plus de résultats.
Et au pire des cas on fait des mises à jour toutes les semaines, tous les jours pour montrer aux gens que ça
vit. Ça a dû être dur pour toi, parce que toi qui as plein d'idées qui est capable de rajouter plein de briques. Pour toi d'arriver à se dire, ok, je fais un step back et je me pose et il me faut une version 1, une version 2, une version 3. Comment tu l'as vécu ça ?
Bah, ça a été compliqué, mais ça m'a permis déjà de me reconcentrer sur les choses importantes.
Ouais.
Et de pouvoir répondre directement au marché. Et même moi, il me faut quand même du concret. Parce que faire plein de choses sans avoir rien au final, c'est un peu gênant. Le fait de se rendre compte, d'avoir une réponse du marché, de savoir ce que veut le marché et de travailler par rapport à une réponse qu'on a eue, c'est déjà beaucoup plus facile.
Ok.
On travaille pour un objectif, en fait.
Alors, tu as parlé de concret. J'aimerais que vous m'expliquiez justement, concrètement, quelle est la solution que vous proposez aujourd'hui à vos clients et comment vous faites ? Parce qu'on a parlé de gravure, on a parlé d'étiquettes, etc. Voilà, concrètement, aujourd'hui, c'est quoi votre solution ?
Comme Jonas te l'a dit au début, pour nous, ça paraissait évident que si on n'unissait pas le certificat et le produit, on allait éternellement avoir deux entités qui allaient être contrefaisables, en fait. Tu vois. Si le certificat papier peut être contrefait et le produit peut être contrefait, en fin de compte, on n'aura jamais la réponse. Donc nous, il fallait l'unir. Ensuite, tu as parlé de tout ce qu'il y a de gravure. Il existe plein d'autres solutions.
En fait, le monde physique et le monde digital.
Ouais,
quoi.
C'est ça. Et nous, ce qui nous a pris beaucoup de temps, c'est le développement de ce truc-là. Comment est-ce qu'on va l'unir et comment est-ce qu'on va se distinguer des autres ?
Sachant que vous n'êtes pas tech à la base.
Non, ouais. On n'est pas tech.
Moi, perso, je me suis formé.
D'accord.
Ça. Ouais, okay. Ça fait un an et demi que je me suis formé de zéro. Enfin, j'ai eu la chance d'avoir une grosse aide, vu que dans le monde de la 3D, il y a... C'est à peu près la même logique dans les logiciels.
D'accord. Ça t'a permis d'avancer plus vite.
Exactement. Enfin, de comprendre plus rapidement ça m'a un peu mâché le travail. Mais oui, sur la tech et sur le dev, je me suis formé depuis la création du projet, depuis ce qu'on sait. Enfin, depuis les objectifs qu'on a en dev. Ouais.
Déjà, ça part aussi de ce que tu as trouvé comme information dans tes recherches. Donc, tu fais par élimination, en fait. Tu dis, on est d'accord, le papier, ça marche pas. Donc, nos concurrents, qu'est-ce qu'ils font aussi ? Ils utilisent ça, bon, ça marche pas, ça marche pas. Et nous, on est venu à la conclusion que la solution la plus utile, c'était une puce, en fait.
D'accord.
Ouais, une petite puce qu'on pouvait intégrer directement dans le produit. Bien sûr, est venu un milliard de
questions.
Ouais, de questions, de problématiques, y compris du marché, tu vois. Moi, j'allais voir des clients, des prospects, je leur disais, mais je vais mettre une puce dans votre produit, moi. Et donc moi j'ai une chaîne de fabrication qui j'ai mis des années à la fabriquer, tu vas venir et tu vas rajouter
et
une puce.
Tu dois changer une des étapes du
process.
Voilà,
c'est ça. Tu sais ce que tu vas faire. Je dis
sans compter le coût de la puce, peut-être sa maintenance, l'entretien, j'en sais rien.
Ouais.
Est-ce qu'on peut l'enlever du produit ou pas ? Enfin, tout un tas de choses. Comment elle est connectée ?
Ouais, c'est ça. Et puis en plus, supply chain, tu vois. Ça veut dire que tu as du hardware, donc tu as un produit, il faut que tu aies une supply chain. Il faut que tu aies un fournisseur de qualité parce que, en plus de devoir convaincre ton client que tu vas lui mettre un produit étranger, il ne va pas accepter n'importe quel type de produit dans son produit à lui. Il faut que ça soit normé, au minimum européen, avec telle et telle caractéristique. Mais pour nous, ça semble plus évident parce qu'un QR code, c'est dégradable. Et puis, ça peut se perdre. S'il n'est pas lié au produit, ça se perd.
Et c'est falsifiable.
Un gravage, c'est dégradable aussi sur une pièce métallique avec des chocs dans la poche, des clés X ou Y, ça se dégrade. Alors qu'une puce, ça a coché plein de problématiques, tu vois. Nous, on utilise une technologie qui s'appelle la technologie Temper. Donc, tu imagines une puce que tu colles sur un produit. Et si tu essaies d'arracher la puce, en fait, tu déconnectes le lien avec le certificat.
D'accord.
Donc en fait, ça envoie un message directement au serveur qui indique que le produit vient d'être corrompu, quoi.
Et pour faire simple, on intègre le certificat du produit dans cette puce-là. Et donc toutes les identités et toutes les informations du produit seront inscrites dans cette puce.
D'accord.
Et donc, ça va permettre au client, d'un simple passage de son téléphone au-dessus de son produit, de savoir si celui-ci est authentique ou pas.
D'accord. Mais du coup, un produit authentique sur lequel tu mets une puce, la puce s'est arrachée parce que quelqu'un essaie de le voler, ça reste un produit authentique, mais c'est que tu peux plus le certifier, en fait.
Ouais, mais du coup, il est, en fait, il rentre dans
il
un...
Il est considéré contrefaçon.
Non, mais il est considéré litigieux.
D'accord.
Parce qu'il y a un autre problème aussi. Pour les produits à haute valeur ajoutée, en tout cas pour les montres, à Paris, c'est plus de 35 000 vols violents à l'année. Donc, qu'est-ce qui se passe si moi, je vais chez quelqu'un, je le cambriole, donc je cambriole, on va dire, une montre à haute valeur, et je cambriole sa montre, sa boîte, son certificat. Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, tout est authentique, tu vois, mais il y a quand même un préjudice et on ne peut pas le protéger, ce produit. Mais nous, on s'est dit, ça serait quand même super intéressant qu'on peut rendre le produit inauthentique à distance. Donc, moi, je me fais cambrioler ma montre, ma boîte et mon certificat. Je m'en aperçois, depuis mon téléphone, je peux le rendre inauthentique. Comme ça, quand ce produit va se retrouver sur le marché de la seconde main, on va dire que le voleur est un peu débile et va vouloir essayer de le revendre.
On va la revendre tout de suite.
La personne va scanner la montre parce qu'elle sait qu'elle est équipée d'une puce et va voir qu'il y a un problème avec cette puce. En plus de ça, scanner cette montre-là va envoyer un signal directement à la marque ou à nos databases indiquant qu'un produit qui avait été déclaré volé vient d'être scanné.
D'accord. Donc vous, en fait, il y a aussi une connexion avec vos clients. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait une API ou en tout cas un lien avec la base de données des produits, des puces en face et donc pour se connaître les statuts en temps réel.
Ah, c'est ça.
On a plus ou moins deux services. On a un service directement pour les utilisateurs du produit, donc les consommateurs, qui va être le certificat, les informations et la certitude que leur produit est bien certifié. Et on a un autre pan, un autre service qui est la data pour les entreprises en question.
Donc vous avez deux types de clients en fait.
Oui.
D'accord. Donc ça veut dire soit l'entreprise qui produit des produits de luxe ou à haute valeur, c'est ça que tu disais, et qui a envie de trouver une nouvelle manière de certifier, soit sinon celui qui fait un achat et qui dit tiens je voudrais me protéger cet achat parce que j'ai mis un budget, parce que peu importe, c'est ça ?
Non, parce que là il y a un petit problème en fait auquel nous on s'est confronté tout de suite, c'est cette histoire d'autorité certifiante. Nous, on ne veut pas être une autorité certifiante. D'accord. On ne veut pas avoir à traiter du produit physique et l'équiper parce que en fait, ça va demander des experts, ça va demander un lieu physique de stockage et une logistique et beaucoup plus grande. Ouais, des normes disproportionnées.
Et même potentiellement, il y a des risques de...
Et il y a des risques, tout à fait.
On se trompe en fait. Sur de la certification. Enfin, quand c'est un humain derrière, même si c'est un spécialiste de telle marque, il peut se tromper sur un produit. Donc...
Des grosses boîtes aujourd'hui font face à ces problèmes. Je pense notamment à StockX, par exemple, tu vois, donc qui avait quand même pour objectif de réguler un peu le marché de la sneakers parce que ça affluait, ça donnait des montants complètement disproportionnés. Et en fait, à cause de l'afflux et du montant, donc eux, en fait, ils réceptionnent des chaussures des particuliers, ils les authentifient, ils les mettent en vente sur une plateforme. Mais tu peux prendre le temps d'authentifier une chaussure 10-15 minutes, mais si tu en as 100, 200, 300 000 à authentifier, tu ne trouveras jamais suffisamment d'experts, premièrement. Et deuxièmement, il existe presque autant de qualités différentes de produits contrefaits que de produits contrefaits, en fait.
Ok, donc pour vous, c'est plutôt l'entreprise initiale, lorsqu'elle vend son produit, qui, elle, va imposer la puce et qui va permettre de certifier.
Ouais, en fait, on souhaiterait devenir un standard pour ça, et que n'importe quelle marque ou n'importe quel utilisateur se dise, pour vérifier si mon produit est bien authentique, il faut que je puisse le scanner et avoir un retour de ce scan-là.
Alors, du coup, ça j'imagine que ça a un coût aussi. Que ce soit pour l'entreprise en question qui veut faire certifier, mais en même temps, du coup, qui va le répercuter sur le client final. C'est quoi votre modèle économique, vous ? Comment vous gagnez de l'argent avec ça ?
Nous, déjà, dans un premier temps, on vend le service. Donc, on vend la puce, l'installation de la puce sur le produit.
D'accord.
Le prix varie selon la quantité et le type de produit à équiper parce que forcément, il faut des normes bien spécifiques.
Mais pour vous donner une idée, ça ne coûte pas plus cher que des étiquettes qu'on a derrière nos vêtements.
D'accord.
Ou qu'un produit anti-vol qu'on met sur un produit pour pas qu'on le vole dans un
magasin. Ok, donc ça implique pas un surcoût par rapport aux solutions existantes.
Après, ça va dépendre vraiment du produit à équiper. Et c'est vrai que si ça dépasse un peu notre cahier des charges techniques et qu'il faut qu'on fasse des modifications, là, le coût va forcément se répercuter. Oui.
Est-ce que vous avez identifié peut-être un segment ou un secteur d'activité ou des types de produits pour lesquels vous avez commencé parce que ça répond justement à votre cahier des charges? Vous avez fait ça.
Ouais.
C'est quoi plutôt les secteurs?
Là, pour le moment, le secteur, c'est la maroquinerie.
D'accord.
Et le vin et spiritueux.
D'accord.
En fait, on a fait le choix par élimination, encore une fois. Donc, moi, je suis allé toquer chez des gens. Au début, nous, on s'intéressait vraiment aux montres. les montres, c'était vraiment un créneau qui s'intéressait parce que voilà, elles cochent toutes les cases. Il y a de l'insécurité, il y a de la contrefaçon, donc il faut apporter une solution. Mais une montre, c'est au minimum 200 pièces micro pour les plus fines. Donc, est-ce que tu vas aller graver toutes les pièces? Est-ce que tu vas les équiper toutes les unes de puces? Y a des vrais challenges, en fait. Il y a un vrai challenge technique. Moi, j'avais rendez-vous avec un horloger qui était intéressé, mais qui a dit, mais comment est-ce que tu comptes faire? Parce que il y a aussi ce problème de, comme pour une voiture, parce qu'en fait, c'est un nombre de pièces différentes, une voiture, elle peut être 100% originale, parce que toutes les pièces qui sont à l'intérieur sont originales et authentiques, mais elle peut être aussi authentique, mais pas 100% originale. Donc, comment est-ce que tu fais en sorte de réunir tout en un seul et surtout de le protéger, quoi.
Même sur c'est quoi votre solution alors?
Bah, pour le moment, on n'en a pas.
Vous êtes d'accord.
Donc, ouais. on a préféré spécifier le marché sur lequel notre solution fonctionnait. Et dès qu'on aura un peu plus de fonds, dès qu'on aura un peu plus avancé dans le projet, pardon, on pourra mettre en place cette technologie pour de la multipièce. Mais actuellement, notre technologie fonctionne sur... sur des spiritueux, sur du vin, sur de la maroquinerie, sur des choses qui sont unitaires avec un seul produit qui contient l'objet.
Ok, bah très clair. On passe à, je vois le temps qui passe et
désolé, on parle beaucoup.
C'est super intéressant et j'essaie de bien comprendre le concept. Quelle est votre ambition pour l'entreprise et comment vous comptez y arriver? Donc là, on a vu que vous avez une première offre de service pour ces segments d'activité, enfin ces secteurs d'activité. Qu'est-ce que vous avez là concrètement disponible et c'est quoi la suite, vos objectifs en termes de chiffre d'affaires ou de vente ou de nombre de clients ou de collaborateurs dans les prochains mois?
Déjà, premier objectif, ça serait de closer notre client sur lequel on est en train de réaliser un POC là. Ça serait une grosse étape pour nous de pouvoir valider ce client et cette première étape. Et après, scale le plus possible avec le projet, atteindre le plus de marchés possible. On a un objectif de... C'était 5 clients à la fin de l'année?
Ouais, 5 clients à l'avant.
Et c'est d'avoir 5 clients dans notre portefeuille pour la fin de l'année.
Et ça représente quoi comme volume de produits certifiés ou de CA pour vous, 5 clients?
Bah en fait, ça va dépendre. Tu vois, par exemple, là, le client pour lequel on est en train de développer, donc on est sur du vin et spiritueux, donc ça va être, en tout cas pour le POC, on va pas être sur des énormes quantités. On va être quoi, tu penses, sur une, ça va être 500, un truc comme ça, peut-être, dans l'idée. Ça sera, ouais, on sera autour de 2000 pièces, peut-être, avec 5 clients, parce que nous... La stratégie un peu pour faire adopter la solution, c'est de partir sur une collaboration ou une collection un peu spéciale. On va pas équiper toute leur gamme de produits. Mais c'est surtout pour faire un constat, quoi. C'est surtout aussi 5 clients, c'est aussi un signe pour dire que voilà, c'est pas adopté, mais c'est utilisé. Et on
ça
va pouvoir...
Ça permet de confirmer pour vous.
Voilà, ouais. Ça permet
et
de
dire
ça
après,
permet de confirmer.
On investit plus, ou on lève des fonds, ou on passe à autre chose.
C'est ça, ouais.
Okay.
Ouais.
Et juste vous deux, ou il y a d'autres personnes qui bossent avec vous, du coup?
Pour le moment, on est juste nous deux. Alors, il y avait d'autres personnes qui bossaient avec nous. Et puis là, nous, on vise une embauche.
D'accord.
On vise une embauche dans pas longtemps.
Avec ce contrat, tu disais tout à l'heure?
Avec ce contrat et avec l'aide aussi des prêts d'honneur et des subventions.
D'accord.
Ok. Parce qu'on va avoir...
Ça, c'est vous qui avez sollicité les organismes ou ils sont venus à vous?
Ouais, on les a sollicités. Bah, nous, on a la chance d'être accompagnés par la Technopole et par d'autres trucs, la Chambre du commerce et l'industrie, plein de trucs qui nous aident. Donc,
Et c'est intéressant, ça. C'est un message aussi pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. C'est-à-dire que dès lors que vous créez des emplois ou que... en fait, il existe plein de subventions ou d'aides ou de prêts pour les entrepreneurs qui veulent se lancer. Il y a des fonds de revitalisation en ce moment qui sont hyper aidants si on veut recruter, qui payent une partie des charges des salaires. Donc, voilà, il y a ça à prendre en compte. Je sais que moi, dans mon entreprise, j'en ai bénéficié avec des cap créations ou développements qui ont permis de soit développer des outils, soit de recruter des collaborateurs. Donc ça, pas hésiter à vraiment...
Pas hésiter, ça reste des gros dossiers à monter quand même.
Alors, il y a un peu de papier à faire, mais derrière, ça permet d'aller chercher les moyens, les ressources qui permettent de faire aboutir les projets.
Ouais, une amorce. En fait, souvent, il suffit que de ça, il suffit que d'une amorce.
Même ça permet de se rassurer, de savoir qu'on a 6 mois, 1 an de plus à vivre avec son projet, de savoir que qu'on va pas manger des cailloux toute la semaine, quoi.
Non, quand il y a une victoire, vous allez au resto.
Exactement.
Ce que vous avez dit.
On en crée pas mal en ce moment. Chaque petite victoire, on la prend.
Ça marche. Très bien. Pour vous, ce sera une réussite si quoi dans 3 ans par rapport à NFT?
Tu veux un exemple concret
Ouais, je sais pas, vous êtes à 25 clients dans 3 ans ou 1 million de CA ou je sais pas, moi, un milestone, un jalon concret que vous avez fixé.
Qu'on ait réussi à que ça devienne un standard, que ça soit une norme. D'utiliser le...
Pour que ça devienne un standard, il faut pour toi, d'après toi, combien de produits ou combien de...
C'est surtout le marché qu'on va viser, je pense. Si on arrive à récupérer une grosse marque ou une grosse entité comme LVMH ou...
Ou un Hermès.
Ou un Hermès, ça. Je pense que la validation sera beaucoup plus simple et rapide.
Moi, le plus dur, c'est souvent d'avoir le premier. Une fois qu'on a le premier, après,
Le grand compte, le grand compte, c'est toujours plus compliqué. Moi, je dirais, si on a réussi à impacter les chiffres que je t'ai donnés, tu vois. Un Français sur trois, sur deux choses-là, si on arrive à réduire ça, parce que c'est quand même la problématique à laquelle on s'adresse et on le fait pas par fantaisie, quoi. C'est un vrai souci et on veut vraiment le régler, quoi. Donc si on peut mettre un petit coup de botte là-dedans et que ça soit concret et réel et que les chiffres, en tout cas ce que la douane fournit tous les ans, on a réussi à impacter ces chiffres-là, là on sera satisfait, je pense.
Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. On va suivre après le projet. Il va être temps de conclure. Pour ça, j'ai deux, trois petites questions à vous poser pour la fin. La première, c'est, et vous allez répondre chacun individuellement. C'est-à-dire quoi, tu vois comment c'est, Jonas, parce qu'à chaque fois, c'est Lucas qui a commencé. C'est-à-dire quoi pour toi, entreprendre ou être entrepreneur?
Entreprendre, c'est essayer, c'est tomber, c'est se relever, c'est recommencer. Enfin, c'est un cercle à chaque fois qui se reproduit et c'est réussir à sortir gagnant de ce cercle-là. Enfin, grandir gagnant de ce cercle-là. Donc, pour moi, c'est... Voilà.
Ok, bah écoute, super, complètement aligné. Le succès, c'est qu'une succession d'échecs, hein, finalement, d'essais et qui n'ont pas abouti. Et puis finalement, il y en a un qui marche et on passe l'étape d'après. Pour toi, Lucas?
Pour moi, c'est un parcours. C'est déjà... C'est une initiative, en fait. Entreprendre, c'est décider qu'on va tenter quelque chose et que le résultat, en fait, il n'a pas vraiment d'importance. En vrai de vrai, on dit souvent, ouais, il faut enjoy the process, en anglais, il faut profiter du chemin, il y a un peu de ça, même si forcément à un moment donné il faut quand même que ça fonctionne, mais il faut prendre et le process et la finalité et l'évolution comme au premier jour, quoi.
Oh, je suis assez d'accord, le chemin parcouru, ça, on a validé des étapes qui, même si on n'y arrive pas à la fin, on sera content d'avoir validé ces étapes, d'avoir réussi à faire ça et à avoir monté ça de nos mains. Ça reste...
Bon, d'où l'importance, hein, de se fixer des objectifs, parce que sinon, des profils comme vous et moi, entrepreneurs, on n'est jamais satisfait. Au final, on court toujours après quelque chose. Et je te rejoins sur le fait de kiffer aussi le parcours et le quotidien, parce que sinon, on voit toujours que l'étape d'après.
Exactement.
Ça marche. Vous qui avez vécu l'expérience du podcast, comment t'as fait? Quel entrepreneur masculin ou féminin que vous connaissez, avec qui vous pouvez me mettre en relation, vous me recommandez d'inviter sur le podcast?
Là comme ça. Mais je sais pas si tu l'as déjà invité ou pas. Iman Rabat ou... Ouais, j'aurais dit Iman Rabat.
Et vous pouvez mettre en relation.
Ouais, je pense.
Ouais.
Ouais, je pense.
Ok. Eh ben, je prends avec grand plaisir. Un mot de la fin, chacun. Allez, Lucas, pour toi.
Un mot de la fin. Bah écoutez, 9T est bientôt disponible, MVP est terminé, on est extrêmement ravis, je fais un peu de pub, j'en profite. Puis voilà, en tout cas pour les entrepreneurs et les futurs participants de Plug and Start, j'espère vraiment que vous allez prendre pleinement l'expérience et que vous allez en profiter, parce que je pense que c'est le plus important. Et... J'aime à dire souvent que les entrepreneurs, sans eux, y aurait moins de choses sympas quand même. Il y aurait moins de choses sympas.
Ça marche, merci à toi. Jonas,
bon courage pour la suite. Beaucoup de force et chaque, chaque petit succès est bon à prendre et bon courage.
Et avancer, kiffer. Ok, ça marche. Un grand merci, Lucas.
Merci
et Jonas,
beaucoup.
Pour votre retour d'expérience.
Merci beaucoup, Julien.
Pour
merci
toutes beaucoup. Celles et tous ceux qui veulent vous retrouver, ils peuvent se connecter à vous sur LinkedIn ou aller sur votre site web n9t.io.
Tout à fait.
Ravi de cette belle rencontre qui a été initiée par la Technopole de l'Aube en Champagne qui soutient cet épisode et chaque année, on l'a vu. Au travers de son événement Plug and Start, accompagne des entrepreneurs pour développer leurs projets, leur faire gagner des années de réflexion et de structuration. Pour plus d'infos, pour tous ceux qui voudraient aller découvrir l'événement, donc, le site web c'est plugandstart.com. On fera apparaître le lien à l'écran. Candidatez vite, tout simplement, parce qu'il reste encore des places. Tentez de gagner 3 à 6 mois d'accompagnement pour tout simplement faire avancer votre projet et être accompagné par des chefs d'entreprise et des experts, on l'a vu, qui challenge, mais du coup, qui font avancer. À très vite. Bye.
Merci.
Merci beaucoup.
C'était « Comment t'as fait ?» les rencontres d'entrepreneurs. Le podcast pour comprendre comment celles et ceux qui entreprennent ont fait. À très vite pour de nouveaux épisodes.